Avant de s'en aller, le Seigneur a donné un ordre à ses disciples. Et cet ordre est aussi valable pour nous qui revendiquons aussi être les disciples du Seigneur. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que le Seigneur a donnée à chaque chrétien qui se dit être de lui, c'est d'aller et de faire en sorte de prêcher la bonne nouvelle, de faire en sorte de répandre l'odeur du Seigneur, l'amour du Seigneur, afin que son salut soit manifesté parmi toutes les nations. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, quel que soit le rôle que nous avons dans la société, le rôle que nous avons dans l'Église, l'objectif principal que nous avons, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ainsi, dans l'éducation même que nous donnons à nos enfants, doit avoir pour objectif de les emmener à connaître le Seigneur et de les préparer à servir le Seigneur. La responsabilité que nous avons lorsque nous encadrons des jeunes, peut-être qu'on nous confie des neveux que nous recevons durant les vacances, nous avons pour objectif de faire d'eux aussi des disciples du Seigneur. Et ce travail-là que le Seigneur demande, c'est un travail qui est à la portée de tous. Chacun d'entre nous, en venant au Seigneur, nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur en nous, et par conséquent, nous avons eu aussi les capacités nécessaires à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Chacun à notre niveau, Dieu nous a donné des dons, des capacités, afin de pouvoir le servir et d'accomplir l'œuvre que lui-même a commencée, c'est-à-dire le salut de l'humanité, le salut des âmes. Mais pour faire ce travail-là, pour servir le Seigneur dans les conditions voulues par Dieu, cela nécessite un commencement. Ce commencement qui est tout simplement la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas aujourd'hui servir le Seigneur si nous n'avons pas compris sa logique, si nous ne sommes pas nés de nouveau par rapport à la conception des choses du monde spirituel et de la vie sur terre. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas compris quelle est sa volonté et quelle est la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Et dès l'instant où nous acceptons cette logique qui nous est transmise par la parole de Dieu et qui est soutenue par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est de cette manière-là que nous devenons enfants de Dieu et que nous naissons de nouveau. Par conséquent, la façon dont nous voyons les choses autrefois change parce que nous avons adopté la façon de voir les choses selon le Seigneur et selon les Écritures. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème qui s'est posé la question sur la nouvelle naissance. Il n'avait pas compris quel était ce phénomène, quelle était cette chose-là qui demandait finalement à faire de nous des personnes nouvelles. Alors il va poser la question au Seigneur, mais est-ce que nous devons entrer de nouveau dans le sein maternel pour naître de nouveau ? Il était perturbé par l'enseignement du Seigneur. Et le Seigneur va lui expliquer que la nouvelle naissance est une réalité spirituelle. Ce n'est pas que les choses recommencent à zéro de façon physique, mais elles recommencent à zéro de façon spirituelle. Dès l'instant où nous épousons la logique du Seigneur, transmise par les Écritures et soutenue par le Saint-Esprit, c'est de cette manière-là que nous devenons une nouvelle personne. C'est pourquoi il dit que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc il y a une action de la parole de Dieu que nous recevons et une action simultanée avec le Saint-Esprit qui nous convainc que ce que nous recevons vient de Dieu. Et dès l'instant où nous acceptons cette logique, nous devenons enfants de Dieu et toute notre intelligence est changée et notre regard désormais est le regard du Seigneur en ce qui concerne tout simplement la réalité de la vie. Et au verset 8, il va donner dans son enseignement un point qui est très très important et qui va caractériser de façon physique quelle doit être la marche de celui qui a véritablement accepté le Seigneur. Quels sont les fruits qui vont témoigner que nous sommes vraiment nés de nouveau ? Au verset 8, il dit, dans Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nous entendons le vent, et le vent, nous ne pouvons pas le toucher. Le vent n'est pas palpable. Nous sentons dans l'air qu'il y a le vent. Lorsque nous observons, les arbres, lorsque nous observons les fleurs, nous pouvons voir qu'il y a le vent. D'où vient le vent ? Où il va s'arrêter ? Ça, nous l'ignorons. Et le Seigneur fait cette comparaison avec celui qui est né de nouveau. Il dit que celui qui est né de nouveau est comparable à ce vent-là. C'est-à-dire que Il ne maîtrise pas là où il va. Sa vie est désormais ballottée par le vent du Saint-Esprit. Si le vent souffle à droite, il va. Le vent souffle à gauche, il va. Ça nous montre par là que lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus maîtres de notre vie, mais nous vivons tout simplement au gré du vent soufflé par le Seigneur, là où Dieu nous envoie, nous nous humilions et nous faisons que suivre. Et cela se traduit par l'obéissance. Une personne qui se laisse conduire par le vent du Saint-Esprit, c'est une personne qui ne maîtrise plus sa vie. Donc qui va commencer à obéir bêtement à ce qui est écrit, obéir bêtement à ce que Dieu lui impose, même lorsqu'il ne comprend pas. Je dis souvent que l'obéissance ne peut pas forcément être liée à l'intelligence. Dieu n'est pas obligé d'abord de nous expliquer les choses, que l'on comprenne, et après pour dire « j'ai obéi ». L'obéissance, c'est « je ne comprends pas tout ce que Dieu fait. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de faire ça. Mais puisqu'il me le demande, je me soumets et j'obéis. » C'est ça la véritable obéissance. Donc celui qui est né de nouveau, eh bien, ça va se caractériser par sa capacité à obéir au Seigneur sans discuter, sans contester et sans poser de conditions. Ce n'est pas « Seigneur, j'irai si d'abord tu me donnes ceci. Seigneur, j'irai si d'abord tu fais ça pour moi. Seigneur, j'irai si d'abord tu m'expliques. » L'obéissance est « Seigneur, je vais y aller parce que tu me l'as demandé. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas exactement là où tu veux m'emmener. Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire de moi, ce que tu veux faire avec moi. Mais puisque tel est le cas, alors je me soumets tout simplement et sur ta parole, eh bien, j'obéis tout simplement. » C'est ça l'obéissance et c'est ça l'un des signes qui montre qu'une personne est née de nouveau, c'est qu'elle ne maîtrise plus sa vie. Et c'est la première condition pour entrer dans l'ordre du Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que puisque c'est un ordre du Seigneur, nous n'avons pas le schéma complet des épreuves, des luttes, des combats que nous allons éprouver dans les lieux, dans les endroits, dans ce que le Seigneur va nous demander de faire. Mais parce qu'il nous a envoyés, alors nous croyons qu'il ne se trompe pas et surtout nous croyons qu'il nous en donne les moyens. Nous croyons que nous avons les moyens nécessaires pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. L'obstacle que nous rencontrons souvent, c'est qu'il y a des principes élémentaires, des principes importants que nous oublions dans notre façon de servir Dieu, que nous oublions lorsque le Seigneur nous envoie, parce que quelque part, nous sommes libres un petit peu. Quelque part, nous sommes un petit peu chefs de notre propre vie. Alors, il y a une contradiction, il y a une lutte entre ce que le Seigneur veut et ce que notre chair veut. Et c'est ce qui fait que nous retardons les échéances. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas toujours utiles au Seigneur. C'est ce qui fait que nous traînons tout simplement dans la vie avec Dieu et quelquefois même dans notre maturité, notre croissance spirituelle. Parce que ce principe-là de se laisser conduire par le Seigneur, d'accepter que notre vie est désormais au service de Dieu, lorsque nous n'avons pas totalement intégré cette conception, nous ne pouvons pas être utiles au Seigneur. Tout ce qui est à nous appartient à Dieu. L'argent que nous avons appartient au Seigneur. La voiture que nous avons appartient au Seigneur. La maison que nous avons doit être au service du Seigneur. Si nous n'avons pas saisi tous ces principes-là, alors nous ne pouvons pas être ces instruments que Dieu veut utiliser. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se posent la question ou bien qui se sentent tellement inutiles parce qu'ils ont le sentiment que Dieu utilise les autres, que Dieu s'occupe des autres, mais qu'eux sont toujours là à la traîne. Ils ne savent pas comment servir Dieu, ils ne savent pas où servir Dieu, alors que le Seigneur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'y a pas aujourd'hui un enfant de Dieu, il n'y a pas aujourd'hui un chrétien que le Seigneur ne considère pas dans son service, que le Seigneur dont n'a pas besoin pour le salut des âmes. Chacun d'entre nous qui avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des serviteurs et des instruments pour la gloire de Dieu. Mais cela ne peut pas se faire si notre conception n'accepte pas la réalité que toute notre vie désormais est au service du Seigneur. Et comme l'exemple du vent qui a été donné, nous ne devons plus rien maîtriser, mais nous devons tout laisser et abandonner entre les mains du Seigneur. Sans cela, nous ne pourrons pas être ces serviteurs que le Seigneur veut. Et nous allons avoir, par conséquent, une vie chrétienne aigrie, une vie chrétienne triste, une vie chrétienne qui va nourrir des sentiments de jalousie vis-à-vis des autres, une vie chrétienne qui va nourrir des sentiments comme de rejet du Seigneur, comme si le Seigneur ne tenait pas compte de nous, comme si le Seigneur faisait du favoritisme, alors que la réalité, c'est que Dieu nous a tant aimés, chacun d'entre nous, qu'il a donné Jésus-Christ. Et nous qui sommes appelés à être ses disciples, eh bien, la mission, elle est ouverte à tous, et le travail, il y en a pour tout le monde. Il y a des obstacles que nous rencontrons. Dans Jean chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Jean 6, à partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Pour que ce miracle soit fait, pour que l'œuvre du Seigneur soit faite, il a fallu d'abord qu'il y ait une semence. Les arbres que nous voyons, que nous considérons comme beaux, que nous considérons comme grands, ne peuvent pas exister si à la base il n'y a pas eu une semence qui pouvait paraître certainement insignifiant. Il y a des gens qui ne plantent pas parce qu'ils évaluent le temps en se disant la graine est tellement petite que le temps que ça germe, que le temps que ça produise, j'ai peut-être le temps d'être à la retraite, j'ai peut-être le temps de mourir, je ne verrai pas. Alors ils préfèrent accélérer les processus. Ils préfèrent planter déjà l'arbre quand il est déjà grand et en subir les conséquences dans le temps. Et c'est de cette façon-là quelquefois que notre conception envers le Seigneur est. C'est que nous avons des idées arrêtées parce que nous regardons selon le temps des humains. On se dit, mais le temps que je fasse telle chose, le temps que ça va produire, ça risque de prendre tellement de temps. Et quelquefois, ça nous oblige à chercher des raccourcis qui nous font sortir de la volonté de Dieu, qui nous emmènent dans le compromis parce que nous voulons à tout prix que le fruit soit mangé maintenant. Nous voulons tout de suite que la chose vive maintenant. Mais la base qui nécessite que nous puissions planter cette graine-là, nous n'avons pas cette patience. Nous n'avons pas ce temps que nous estimons trop long. Mais pour que le Seigneur agisse aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous, mais il a fallu d'abord que la nouvelle naissance ait lieu. Si le Seigneur avait le même raisonnement que nous, qui pourrait servir le Seigneur? Si le Seigneur devait se dire, mais telle personne, le temps qu'elle se convertisse, le temps qu'elle accepte ma parole, le temps qu'on l'enseigne et puis qu'elle grandisse en maturité, mais tout ce temps-là, finalement, je risque de revenir avant, ce n'est pas nécessaire. Qui pourrait servir le Seigneur si le Seigneur avait notre raisonnement? Et c'est la raison pour laquelle nous ne servons pas Dieu. Parce qu'au lieu de regarder aux principes de Dieu, nous regardons à nos principes, à nous humains. Nous regardons avec notre intelligence. Voilà là un jeune homme qui avait très peu devant le nombre de personnes à nourrir. 5000 hommes, sans compter femmes et les enfants. Il fallait nourrir. Mais avec 5 pains et 2 poissons, les disciples ont même dit, mais qu'est-ce que ça représente devant le travail qu'il y a à faire? Parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes. Ils ont regardé à ce qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas regardé à ce que Dieu était capable de faire. Ils n'ont pas regardé à qui était Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous empêche d'entrer véritablement dans la mission de Dieu. Parce que devant le champ qui paraît tellement grand, nous nous disons, mais Qui suis-je? Qui sommes-nous? Ma famille est tellement grande, le temps qu'un déjà se convertisse, mais ça va prendre trop de temps. La ville de Rouen est trop grande, la France est trop grande. Le petit nombre que nous sommes, le temps de faire un concert, mais est-ce que ça sera utile? Et on traîne des pieds, on ne fait rien, parce que nous regardons à notre capacité à nous. Mais nous avons lu dans Jean 3:8 que celui qui sert le Seigneur, qui devient enfant de Dieu, sa vie devient au service de Dieu. Il ne maîtrise rien. Lorsque le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit avant, au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il dit « J'ai reçu l'autorité. Parce que j'ai l'autorité sur toute chair. J'ai l'autorité sur toute la terre. Je vous envoie maintenant. Je fais de vous mes ambassadeurs. Je vous donne les droits qui sont les miens pour que vous accomplissiez cette mission. » Et c'est ce que nous oublions. Le Seigneur a dit « Je ne veux pas vous laisser orphelins. Mais je viendrai à vous. Je ne vais pas vous laisser seul dans le travail. Mais moi-même, je serai avec vous. » Et il dit encore à ses disciples, « Je serai en vous. Parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit. » Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est lui qui accomplit toutes ces œuvres-là. Et les disciples avaient oublié ces principes. Et devant la multitude, ils ont été troublés. Mais qu'est-ce que ça représente, ces pains et ce poisson? Ça ne représente rien. La Bible dit que le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Eux, ils ont regardé à eux, mais ils ont oublié qui les avait envoyés. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Mais ce jeune homme-là qui était là, qui avait très peu, a simplement mis au service le peu qu'il avait, en s'attendant que le Seigneur lui pouvait faire beaucoup. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous nous regardons tellement petits, nous nous regardons tellement inutiles, parce que nous nous regardons dans le miroir, nous regardons nos défauts, nous regardons à nos diplômes, nous nous comparons aux autres qui semblent beaucoup plus intelligents que nous, et on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. On a le sentiment, mais que dans tout ce travail-là, finalement, est-ce que vraiment j'ai de la valeur? Est-ce que vraiment l'acte que je vais poser va être important? On ne maîtrise pas tout, et on ne comprend pas toujours de ce que le Seigneur veut faire. Vous savez, lorsque nous étions en mission dernièrement avec les frères au Gabon et puis au Congo, à la fin, on avait hâte de rentrer. Personnellement, j'avais hâte de rentrer. J'étais arrivé au bout, moralement, de ce voyage-là. Et on a décollé donc de Brazzaville et on devait faire escale à Kinshasa pour mettre du carburant. Alors, en arrivant à Kinshasa, à l'atterrissage, un oiseau entre dans l'un des réacteurs et endommage le système. Alors, le commandant décide qu'il ne prendra pas de risque, on ne va pas repartir. Et il faut faire venir un mécanicien d'un autre pays parce que sur place, il n'y avait pas de mécanicien. Alors là, c'est tout un schéma qui se fait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement content de rentrer et voilà qu'on nous retient un jour de plus en Afrique dans des conditions de logement qui étaient bonnes, mais tout ce qui était organisation était vraiment épuisant. Et là, dans mon cœur, j'ai commencé à murmurer. Dans mon cœur, j'ai commencé à me poser des questions. Mais une pensée me dit, mais tu vas murmurer pourquoi? Est-ce que c'est à cause du pilote que l'avion est entré? Si ça avait été une erreur humaine, on pourrait se poser des questions, murmurer contre le pilote, contre tout ce que l'on veut. Mais là, c'est l'oiseau. Qui commande les oiseaux? Mais c'est Dieu qui commande les oiseaux. Donc c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est le Seigneur qui est à l'origine de tout ça. Et on s'est retrouvé là, passé une journée de plus, en RDC. Et lorsque je rentrais, je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi? Quel est l'intérêt qu'on vienne passer une nuit supplémentaire là? Et on avait été dispersés, on avait été logés dans deux hôtels différents. Et les frères qui étaient dans un autre hôtel que le mien, lorsqu'ils arrivent, ils voient une grande pyramide de francs-maçons. Et ils ont donc prié. Et moi, je m'interrogeais, je me posais la question. Mais Seigneur, est-ce que tu nous as emmenés vraiment ici pour que l'on prie? Parce qu'au-dedans de moi, je me disais, mais même si la vérité est rare, Seigneur, mais il y a quand même un ou deux vrais serviteurs dans ce pays. Ils pouvaient quand même prier pour ce pays. Et la pensée me vient, mais la grâce que Dieu vous a donnée, il ne leur a pas donnée à eux. Nous sommes un corps et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc il y a quelque chose que Dieu vous a donné pour lequel vous devez venir prier. Voilà la réponse que j'ai eue. Parce que je me disais, mais ce petit nombre que nous sommes, on est rentré à 3. J'ai dit, mais Seigneur, quel est l'impact qu'on va avoir finalement? Il y a d'autres ici qui peuvent prier. Parce que j'avais méprisé notre rôle. J'avais méprisé l'action que le Seigneur voulait faire à partir de nous. Mais j'avais regardé les choses comme si ça dépendait de nous. Nous ne sommes que des canaux que le Seigneur a utilisés pour faire sa volonté. Et dans sa souveraineté, il a trouvé bon que ce soit nous, qui soient mandatés pour venir prier dans ce pays-là. Et c'est comme ça que nous raisonnons. Et ça nous empêche de vivre pleinement la gloire de Dieu et d'entrer pleinement dans le service de Dieu parce que nous regardons en nous et on se dit, mais c'est insignifiant. Pourquoi quitter une ville pour aller chanter dans telle ville ou dans tel pays? Mais il y a des chrétiens là-bas qui peuvent le faire. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il dit que c'est bon que vous allez jusqu'en Suisse. Il dit que c'est bon que vous allez jusqu'en Marseille. Même s'il y a d'autres déjà chrétiens sur place, le Seigneur sait ce qu'il fait. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme le vent souffle, nous ne faisons qu'obéir et nous laisser emmener là où le Seigneur veut. Nous ne regardons plus à nos capacités, mais nous nous soumettons tout simplement à la volonté du Seigneur qui lui a trouvé bon de nous choisir nous pour faire cette mission. On se souvient lorsque le Seigneur se révèle à Moïse et fait comprendre à Moïse que c'est lui qui sera le libérateur de son peuple en Égypte. Moïse a dit, mais Seigneur, je ne sais même pas parler. Il a regardé à sa capacité. Il a regardé à lui, à son handicap. Il dit, mais je n'ai pas la parole facile. Comment je vais aller parler à ce peuple? Comment je vais me présenter devant Pharaon? Je n'ai pas la possibilité, moi, tel que je suis, à le faire. Parce qu'il ignorait qui était en face de lui. Il ignorait qui l'envoyait. Dieu savait ce qu'il allait faire. Mais Moïse avait regardé à lui. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon et qu'il l'appelle vaillant homme, vaillant soldat, parce que le peuple d'Israël était sous l'oppression des Madianites, qui les persécutaient, qui prenaient leurs troupeaux, qui prenaient leur bétail, qui prenaient toutes leurs récoltes, et le peuple souffrait. Alors Dieu va se révéler à Gédéon et lui faire comprendre que c'est toi que j'ai choisi pour être le libérateur d'Israël. Gédéon a regardé à lui, il dit, mais ma famille est la même la plus petite des tribus, pourquoi moi? Et moi je suis encore un enfant. Parce qu'il regardait à sa capacité. Il ne regardait pas à qui était Dieu, à qui était le Seigneur. Il était dans le doute. Il dit même, mais où sont les exploits? Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient que Dieu faisait? Si Dieu était encore avec nous, mais on ne serait pas dans cet état. Ils avaient oublié Dieu. Ils avaient oublié les capacités de Dieu. Ils regardaient à lui. Et lorsqu'on regarde à nous-mêmes, effectivement que la mission va paraître beaucoup trop grande. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, logiquement, nous allons nous trouver inutiles et incapables d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Dieu s'est révélé à Jérémie. Il lui a dit, je t'ai consacré depuis dans le sein maternel. Depuis le sein maternel, moi je t'avais consacré. Jérémie se regardait comme un enfant. Il dit, mais je suis un enfant. Dieu dit, non, arrête de regarder comme tu es un enfant. Parce que le Seigneur savait que c'est lui qui allait agir dans Jérémie. Nous nous regardons quelquefois comme petits, comme jeunes, sans diplôme, sans intelligence, en se disant, mais comment faire l'œuvre du Seigneur? Il y a des gens qui prêchent avant nous. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur avant nous. Mais Dieu peut les utiliser. Dieu peut faire sans nous. On nourrit un complexe d'infériorité parce que nous oublions que c'est le Seigneur qui va agir en nous. C'est le Seigneur qui va faire en nous. C'est le doute dans lequel je me suis retrouvé à un moment donné. Lorsque nous sommes arrivés au Gabon, il y a une sœur qui voulait se faire baptiser. Et en discutant avec elle, elle m'explique qu'elle est déjà dans un groupe de prière. Je lui dis, mais si tu es dans un groupe de prière et qu'il y a un responsable, ben c'est logique que ce responsable te baptise. Pourquoi ne pas simplement te faire baptiser par cette personne? Donc j'ai réussi en quelque sorte à la convaincre. J'ai dit, je ne veux pas paraître comme ceux qui sont venus, qui veulent voler les âmes, ainsi de suite. J'ai dit, non, tu es dans un groupe, il y a un responsable qui est là. C'est logique que ce responsable-là te baptise. Pourtant, la sœur attendait notre venue. J'ai réussi à la convaincre et on s'est convenu qu'elle verrait avec ces personnes-là. Mais au-delà d'elle, elle était insatisfaite. Elle était insatisfaite et elle voulait à tout prix qu'on la baptise. Alors moi, je me suis dit, mais pour quelle raison on va baptiser? Alors j'ai demandé conseil auprès de certains aînés qui ont dit non. Le Seigneur est souverain. Si le Seigneur veut que ça soit ainsi, à la guerre comme à la guerre, il faut le faire. Et c'est par la suite que la sœur va donner plus de détails en expliquant à une tierce personne. Non, la réalité, c'est que je suis dans un groupe, c'est vrai, mais le baptême sera fait par, entre guillemets, le pasteur principal, celui qui est le chef de cette organisation, qui se trouve en Europe et il viendra. Mais cet homme-là, moi, je ne le connais pas. Donc, je ne veux pas qu'il me baptise, je ne le connais pas. Alors, finalement, j'ai cédé. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que ça soit fait de cette manière-là. Parce qu'au-dedans de moi, je me disais, mais non, je suis qui pour venir d'aussi loin et baptiser une personne qui est déjà dans une assemblée. Mais je n'ai pas compris tout. Mais j'ai tout simplement obéi au fait qui était là et à la volonté de la personne que ça soit moi qui la baptise. Je me suis soumis à la volonté du Seigneur. Mais au-dedans de moi, je me disais, mais non, je ne suis pas quelque part digne de faire ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, surtout dans son environnement. Mais le Seigneur s'est imposé. Parce que celui qui est né de Dieu ne maîtrise plus sa vie. Il marche tout simplement dans l'obéissance. Comme le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et j'ai donc obéi, je me suis soumis, mais en me disant que bon, peut-être que ce n'était pas ma place, peut-être que ce n'était pas mon rôle. Et c'est peut-être dans cette configuration-là que beaucoup d'entre nous se retrouvent quelquefois. Et nous ne faisons rien. Parce qu'on se dit, bon, dans tel contexte, je préfère attendre que le pasteur arrive. Dans tel contexte, je préfère attendre que l'ancien arrive, que le diacre arrive. Alors que les choses s'imposent pour que tu dises ce qui doit être dit, pour que tu fasses ce qui doit être fait. Mais te regardant comme trop petit, te regardant comme insignifiant, finalement tu ne fais rien et finalement tu ne sers pas le Seigneur. C'est comme si le service du Seigneur était réservé à une certaine élite, était réservé à certaines personnes et pas à d'autres, parce que nous regardons trop à nous-mêmes. Lorsque les espions sont partis explorer le pays de Canaan et sont revenus faire le rapport, ils ont dit, mais les gens qui occupent le terrain que Dieu nous a donné, mais ce sont des géants. Nous, nous sommes comme des sauterelles. Parce qu'ils ont regardé à leur taille, ils ont été impressionnés parce que leurs yeux ont vu. Mais ils avaient oublié, mais qui les avait envoyés? Ils avaient oublié qu'ils étaient le peuple de l'Éternel, qui venait de faire des prodiges et des exploits en Égypte, qui avait vaincu tous les dieux égyptiens. Ils avaient oublié tout cela. Et ils ont vu des géants, ils ont dit, mais comment nous allons conquérir cette terre? Ce sont des géants, nous, nous sommes des sauterelles devant leurs yeux. Parce qu'ils regardaient à eux-mêmes. Regarder à soi-même est un véritable obstacle pour l'œuvre du Seigneur. On ne pourra pas servir le Seigneur si tout est concentré sur nous. Nous avons besoin de nous souvenir que tout appartient à Dieu, que notre vie appartient à Dieu et que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Dans Luc chapitre 12, il est dit ceci. Luc 12, le verset 32 nous dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point, petit troupeau. Le Seigneur ne s'adressait pas à la masse. C'est sûr que devant l'œuvre qu'il préparait, devant l'œuvre qu'il voulait faire, l'œuvre pour laquelle il envoyait ses disciples, c'était conséquent. Ça représentait une montagne. Mais il les rassure, il dit, petit troupeau. Lorsque nous lisons la Bible, depuis l'Ancien Testament, nous allons voir que même les guerres que Israël a remportées, ils n'ont pas remporté toutes ces guerres avec un grand nombre. Mais le Seigneur a toujours fait en sorte que ce soit un petit noyau, un petit troupeau qui remporte les batailles afin que la gloire lui revienne à lui. Et que les gens se souviennent que, devant la guerre, devant le nombre des ennemis qui étaient là, si nous avons vaincu avec un petit nombre, c'est que certainement c'est Dieu qui était devant. Parce que de nous-mêmes, on ne pouvait pas. Et le Seigneur dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà l'assurance que le Seigneur donne. Ne pas regarder à la grandeur. Il dit, petit troupeau. Donc avec un petit troupeau, le Seigneur peut faire des exploits. Et cette parole que le Seigneur dit à ses disciples, mais spirituellement c'est la même chose, lorsqu'il dit que tout pouvoir m'a été donné, allez et faites de toute une nation des disciples. Il dit, j'ai tous les pouvoirs, c'est pourquoi je vous envoie. Vous pouvez servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné le royaume. Dieu vous a donné l'autorité pour cela. Ne regardez pas au nombre que vous êtes. Ne regarde pas à ce que tu es, à ce que tu peux représenter parmi les hommes. Quelqu'un d'insignifiant, peut-être dans la famille, qui a été méprisé, qui a été rejeté, qui a été considéré comme bête, qui a été considéré comme un idiot, comme un délinquant, comme quelqu'un qui ne changera pas, comme quelqu'un qui est inutile. C'est peut-être ça qui te marque, comme quelqu'un qui a toujours échoué. Mais Dieu dit, ne crains point. L'échec selon le monde, ce n'est pas l'échec selon Dieu. Les disciples, beaucoup d'entre eux étaient des gens qui allaient à la pêche. C'était ça leur travail. Mais la façon dont Dieu les a utilisés a bouleversé le monde de leur époque. Les gens même disent, mais vous, des gens sans enseignement, vous voulez nous enseigner quoi? Mais ils avaient le Seigneur avec eux. Et ils savaient qui les avait envoyés. Servir Dieu, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question d'intelligence humaine. C'est une question tout simplement de soumission à Dieu. C'est une question de laisser Dieu régner en nous, afin que lui nous utilise et qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire, qu'il fasse avec nous ce qu'il a envie de faire. C'est comme ça que le Seigneur agit. Devant Goliath, tout le peuple d'Israël a tremblé. Tout le peuple a eu peur devant un seul homme. Mais David était un enfant, la Bible nous dit. Non seulement c'était un enfant, mais dans sa famille, ce n'était pas l'aîné. Il y avait des grands frères à lui, qui étaient même dans l'armée. Mais c'est un enfant que Dieu a utilisé pour donner la victoire à Israël. Insignifiant, méprisé par ses frères, qui ont dit, on sait que tu es orgueilleux, David. Tu es venu là simplement pour voir la guerre, pour voir ce qui se passe. On connaît ta malice, tu es orgueilleux. Mais Dieu savait que c'était l'homme selon son cœur. Peut-être encore un enfant, mais c'était un homme disposé. Un homme soumis à Dieu, qui était prêt tout simplement à être l'instrument du Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il va se battre avec Goliath, il dit, Goliath, mais tu m'injures par tous tes dieux. Il dit, mais moi, je ne viens pas de moi-même. Il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Donc, je ne viens pas en mon nom. Je ne viens pas avec ma gloire, avec ma force. C'était un enfant. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. David venait tout simplement se présenter là et être au service de Dieu. Il était tout simplement l'instrument du Seigneur pour manifester et confirmer que la victoire appartient vraiment à l'Éternel. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons comme David, que nous nous présentons tout simplement afin d'être des instruments qui vont confirmer que la victoire appartient à Dieu. Des instruments qui vont confirmer que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Mais pour cela, le Seigneur attend que nous puissions nous abandonner entre ses mains, être des instruments inutiles, ne pas regarder à nous-mêmes que nous sommes des enfants, ne pas regarder à nous-mêmes que nous sommes sans intelligence, ne pas regarder à nous-mêmes que nous sommes petits, que nous sommes de telle ou de telle manière physiquement, mais que nous regardons tout simplement à ce que le Seigneur est capable de faire. C'est ce que David avait compris. C'est pourquoi il s'est soumis. Parce qu'il avait compris et il avait adhéré à l'idée que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. C'est un passage qui m'encourage toujours devant l'œuvre que le Seigneur fait. Acte chapitre 2, à partir du verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre lui répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. C'est un passage qui m'interpelle toujours. Parce que lorsque nous voyons aujourd'hui la gymnastique qu'il faut faire pour enseigner les gens, la gymnastique qu'il faut faire pour convaincre les gens de venir au Seigneur, on a le sentiment quelquefois que les choses dépendent de nous. Alors il y a des personnes maintenant qui créent toutes sortes de théories. Ils ont le sentiment qu'en rendant l'évangile difficile, en donnant des mots difficiles, en prêchant de façon compliquée, ils ont le sentiment que c'est de cette manière-là que les gens vont être attirés, que les gens vont être émerveillés par la doctrine du Seigneur. Il y a des gens qui font toutes sortes de programmes compliqués à l'année, des thèmes, on réfléchit, ça devient comme un programme scolaire où on se dit que à partir de temps d'enseignement, la personne doit arriver à tel niveau. L'apôtre Pierre ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Lorsque nous lisons cette prédication, je me suis toujours dit, Seigneur, mais quelle simplicité! Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit d'extraordinaire dans cette parole? Qu'est-ce qu'il a dit de compliqué dans cette exhortation? Il a pris les paroles de l'Ancien Testament, il a rappelé au peuple, voilà ce que David avait dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà qui était Jésus, voilà ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Mais j'ai relu et relu cet enseignement, cette prédication, j'ai dit, mais qu'est-ce que Pierre a dit d'extraordinaire? Il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a présenté les choses telles qu'elles étaient, tout simplement. Et la Bible nous dit que ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes se convertissent environ à partir d'une simple prédication. Mais ça nous montre clairement, bien-aimé, qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Donc lorsque nous comprenons que nous ne sommes que des instruments inutiles et que toutes nos capacités se trouvent dans le Seigneur, on ne force plus les choses, on ne s'interroge plus sur nous-mêmes, est-ce que je suis capable ou pas capable? On se contente d'ouvrir la bouche et de faire confiance que le Saint-Esprit fera sa part. Le Seigneur a dit dans Jean 16, 8 que le Consolateur, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Notre part à nous, c'est tout simplement de parler. Mais quelquefois, on a du mal. On se dit, ah, mon français est un peu cassé. Je ne sais pas trop m'exprimer, je ne sais pas trop dire les mots. Ah, mais telle personne, il a un niveau intellectuel très élevé. Est-ce que la façon dont je vais parler, est-ce qu'il va me comprendre? Pierre ne s'est pas posé les questions de savoir qui était en face de lui. Il a exposé les choses telles qu'il les a vécues. Il a témoigné de ce qu'il a vu. Il a témoigné de ce qu'il a entendu. Et 3000 personnes se convertissent. Lorsque nous regardons à nous, nous ne faisons rien. En se disant, mais par quel mot je vais pouvoir dire? Par quel mot je vais pouvoir expliquer les choses? Nous avons été impressionnés par des aînés dans la foi. En écoutant leur prédication, on se dit, waouh! Est-ce qu'un jour je vais pouvoir prêcher comme ça? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir enseigner comme ça? Mais Dieu ne t'a jamais demandé de prêcher comme l'autre. Il ne t'a jamais demandé d'enseigner comme l'autre. Il te demande tout simplement de dire ce qu'il t'inspire de dire. Et c'est lui qui fera son œuvre. Ce n'est pas parce que tu feras les choses avec des mots poétiques, avec un français soutenu, que tu toucheras le cœur des gens. Ce n'est pas parce que tu arriveras à imiter l'autre que tu toucheras le cœur des gens. Mais c'est uniquement en faisant ce que Dieu te demande de faire. En faisant ce que Dieu nous demande de faire. Et de faire confiance que le Saint-Esprit fera son œuvre. Le Saint-Esprit fera son travail. C'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Ce qu'il nous demande, c'est de dire les choses. Et cette prédication de Pierre doit être un encouragement pour nous. Pour voir que ce n'est pas dans des schémas compliqués que le Seigneur agit. Mais le Seigneur fait les choses dans la simplicité. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui commande toutes choses. Et notre vie est à son service tout simplement. Nous sommes des instruments qui attendent tout simplement que le Maître fasse sa volonté. Et nous nous obéissons. Il te dit, va parler à gauche, tu vas parler à gauche. Va parler à droite, tu vas parler à droite. Tu restes sur place, tu restes sur place. Et tu t'attends à ce que lui va faire. Mais lorsqu'on se dit, mais est-ce que ce que je vais dire vraiment, ça va porter, il y aura un poids? Ah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, peut-être que même le fait de dire Dieu te bénisse, est-ce que vraiment ça serait utile? Bon, je préfère ne rien dire. Mais si le Saint-Esprit t'inspire à dire Dieu te bénisse, dis-le. Ça paraît insignifiant devant toi, à tes yeux. Mais Dieu n'a pas besoin de grand-chose. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la graine que nous voyons comme petite. Elle est tellement petite qu'on ne veut pas perdre notre temps à la semer en se disant que ça prendra du temps à pousser. Alors dire à une personne que Dieu te bénisse, on se dit, mais ce n'est que deux mots. Qu'est-ce que ça va produire dans la vie de quelqu'un? Mais si Pierre avait raisonné de cette manière-là, de se dire, mais ils ont déjà la loi. Ce que David a dit est dans la loi, ils peuvent aller dire, aller lire, et puis ils verront que ça s'est accompli. Il a répété. Les gens auraient pu dire, oui, mais on connaît ça, Pierre. On s'est écrit déjà dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, c'est écrit. On n'a pas besoin que tu nous le dises. Non, il a parlé. Parce que le Saint-Esprit lui demandait de parler. Et les personnes se sont converties. Parce qu'il a oublié et il n'a pas regardé à lui. C'est cette réalité que nous oublions, bien aimés, lorsque nous regardons à nous et qu'on a le sentiment que, finalement, tout dépend de nous, que nous avons comme un rôle à jouer, que ce que nous sommes, ce que nous étions, ça doit être important pour ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Bien aimés, c'est cette façon de raisonner nous fait passer tout simplement à côté du service du Seigneur. On doit s'abandonner entre les mains de Dieu et réaliser et comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui fera son œuvre. Ne regardons pas à ce que nous sommes. Ne regardons pas à ce que les autres disent de nous, à ce que les autres pensent de nous. Je le dis souvent et je le dirai toujours, ce qui est de loin le plus important, c'est ce que Dieu pense de nous. Et ce que Dieu pense de nous est décrit dans Jean 3,16. C'est ça que le Seigneur pense de nous. Et par conséquent, nous pouvons nous livrer entre ses mains, lui faire confiance et nous dire que c'est lui qui agira au moment où il décidera. Nous sommes là pour servir le Seigneur et pas autre chose. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est à nous, bien-aimés, de nous attendre à Dieu et de considérer que tant que nous sommes là, un moment ou un autre, le Seigneur va nous utiliser. Le voleur à la croix, nous l'avons dit dernièrement dans une exhortation, a consacré peut-être une partie de sa vie à être un voleur, à être un brigand. Qui aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, celui-ci allait entrer dans le salut, dans la vie éternelle? Mais quelques instants avant de mourir, il s'est humilié devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Cela nous montre aussi que le Seigneur, tant qu'il était encore sur la terre, avait le souci du salut des âmes et que jusqu'au dernier souffle, sa vie était au service de Dieu pour le salut de l'humanité. Jusqu'au dernier souffle. Encore une fois, lorsque j'étais au Gabon, le séjour arrivait à sa fin. C'était le vendredi et le samedi, on devait rentrer sur Brazzaville. Et inconsciemment, j'avais décroché. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, demain nous rentrons. C'est comme si, voilà, je m'étais déchargé pour me dire, le travail a été fait, c'est fini. Pourtant, nous étions encore au Gabon. Et ce vendredi soir-là, la veille de notre départ, un frère vient nous visiter et dans l'exhortation, il me dit, je veux me faire baptiser. Je lui dis, mais tu étais avec nous, tu nous as vus, mais c'est ce moment-là que tu dis, tu veux te faire baptiser. Alors je l'ai éprouvé, je lui dis, mais nous on part, demain à midi on sera déjà à l'aéroport. Donc si tu veux, tu viens à 7h du matin, on ira faire le baptême. Bien aimé, il est venu. Il est venu et nous avons été faire le baptême avant d'aller à l'aéroport. Alors je me suis repenti par la suite. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pour moi, j'avais décroché en me disant, la mission est effectuée, on rentre maintenant. Pourtant, nous étions encore au Gabon. Et jusque quelques heures avant notre retour, le Seigneur a montré que la mission n'était pas finie. Il fallait continuer le travail et rester dans l'objectif pour lequel le Seigneur nous avait envoyés. Et c'est comme ça quelquefois que nous décrochons rapidement. Lorsque nous allons quelque part, et lorsque nous estimons que ça y est, j'ai exhorté, et maintenant c'est la distraction, c'est les blagues, c'est la rigolade, on sort un peu de notre costume chrétien. On oublie que non, nous sommes encore là comme missionnaires. Le travail n'est pas fini et que nous devons être attentifs et disposés pour le Seigneur jusqu'au bout. Le Seigneur nous accordera des temps de repos. Des temps de repos physique que nous expérimentons sous la terre, par le sommeil, qui nous restaure physiquement, qui nous ressource physiquement. Ce sont ces temps-là que nous expérimentons. Mais le véritable repos n'est pas sur la terre. On ne se reposera jamais sur la terre. Même il y a des fois, même lorsque tu ne fais rien de la journée, tu te trouves encore beaucoup plus fatigué. Même le fait de s'ennuyer nous fatigue. Donc c'est pour nous dire, bien aimé, que ce n'est pas des fois en restant ne rien faire que tu vas trouver le repos. Il y a des gens qui vont en vacances en disant, je vais me reposer. Mais ils rentrent de vacances, ils sont encore plus fatigués. Parce que il fallait manger, parce qu'il fallait s'occuper des enfants. Finalement, ce qui devait être des vacances de repos ne l'est pas. Ça nous montre que le vrai repos n'existe pas sur la terre. Mais il y a des repos physiques que le Seigneur nous accorde pour nous ressourcer un petit peu et nous donner la force pour accomplir chaque jour ce qu'il attend de nous. Mais le véritable repos, ce sera au ciel. Donc à partir de l'instant où nous sommes missionnaires du Seigneur, partout où nous sommes, c'est un titre, c'est une identité, c'est une vie. C'est pas simplement un titre, pardon, mais c'est une vie. Donc je ne peux pas être missionnaire ici et ne plus l'être dans une heure. Et inconsciemment, par la fatigue, j'étais entré dans cette logique-là, en me disant, c'est bon. Ma tête était déjà au Congo, ma tête était déjà dans l'avion. J'étais déjà en train de combattre l'épreuve de l'avion. Comme je n'aime pas l'avion, j'étais déjà en train de me disposer. Bon, l'avion, là, ça va être encore un nouveau combat. Mais j'étais encore au Gabon, là où Dieu m'avait envoyé. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière heure, le Seigneur m'a montré que la mission n'était pas finie. On ne doit pas décrocher. Donc, tant que le Seigneur n'est pas revenu sur terre, tant que le Seigneur n'est pas revenu nous chercher, la mission n'est pas finie. Le temps du repos sera au ciel. Alors prendre des vacances avec le Seigneur, prendre le temps de repos avec l'œuvre de Dieu, c'est que nous n'avons pas compris ce que le Seigneur explique dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il ne maîtrise plus sa vie appartient au Seigneur, sa vie est consacrée à servir le Seigneur. Un autre point, la Bible nous dit dans Romains 8, 28, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon leur dessein. Pourquoi ? Parce que nous avons été prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Donc tout ce que le Seigneur permet dans notre vie a pour objectif de nous amener à ressembler à Jésus-Christ en tant que fils, mais aussi en tant que missionnaire. Et ce sont des principes que nous oublions et que j'ai encore une fois oublié un court instant. Et lorsqu'on oublie que toute chose concourt pour notre bien, on entre bien aimé dans les accusations. On veut à tout prix chercher qui est coupable de notre malheur. On veut à tout prix chercher qui est coupable de ceci ou de cela. On oublie que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. J'ai donné tout à l'heure le témoignage de l'oiseau qui est entré dans cet avion et j'ai commencé à murmurer, à souffler, à commencer à vouloir comment on va faire des réclamations auprès de Air France. Comment se rebeller contre Air France? Certains dans l'avion disaient, ah ouais, c'est du temps perdu, moi il faut qu'on me rembourse mon argent. Sachant que le jour où je rentrais, c'est le jour où je devais travailler. Alors, comme c'est des remplacements que je fais, je me suis dit, bon, là c'est sûr qu'ils ne vont plus me rappeler. J'ai perdu le travail. Donc, beaucoup de raisonnements. Mais la pensée me dit, mais si ça avait été une erreur humaine, tu pouvais te rebeller contre les humains. Mais qui commande aux animaux? Qui commande aux oiseaux? C'est le Seigneur. Donc le Seigneur pouvait empêcher que cet oiseau entre dans l'un des réacteurs. Et là, je me suis calmé. Je me suis dit, donc c'est le Seigneur qui a voulu que les choses soient ainsi. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas tout compris. C'est par la suite que le Seigneur m'a expliqué. Mais au départ, j'étais dans le murmure. Et je me suis dit, mais non, c'est Dieu qui commande l'oiseau. Ce n'est pas une erreur humaine. Il y avait une sœur qui avait perdu son enfant, qui était arrivée déjà à plusieurs mois, qui a perdu l'enfant et qui s'était dit, je vais porter plainte contre l'hôpital. Alors elle m'appelle pour me demander mon avis. J'ai dit, mais comment ça s'est passé? Ben non, je suis parti aux urgences une première fois, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer chez vous. Et finalement, en rentrant chez elle, je ne sais pas si le lendemain ou bien quelques jours après, eh bien, elle perd l'enfant. Elle se dit, je vais attaquer l'hôpital. Je lui dis, tu veux attaquer l'hôpital, pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? L'hôpital, le CHU, c'est pas Monsieur Dupont qui habite au coin de la rue. Tu vas te lancer dans une longue procédure qui risque de prendre des années parce qu'ils sont armés et ils prouveront qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Et d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine qui a tué le bébé. C'est naturellement que les choses ne se sont pas bien passées dans ton sein qui a fait que les choses arrivent comme ça. Mais qui maîtrise le développement du bébé dans le ventre? Est-ce que c'est le médecin? Ce n'est pas le médecin. C'est Dieu qui maîtrise ces choses-là. Alors vouloir porter plainte contre des hommes qui n'ont pas la capacité d'agir au-dedans de toi, quelque part, c'est dire que Dieu est incapable. C'est minimiser le Seigneur. Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, selon moi, ce qui est arrivé tout simplement parce que Dieu l'a permis. C'est tout. Alors, lorsqu'on comprend cette logique-là, et que finalement on se dit que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, on n'est plus dans la rébellion vis-à-vis des gens. On accepte les événements. On arrive à l'aéroport à Brazzaville pour prendre l'avion pour aller à Libreville. Ça commence avec des retards et des discussions bêtes. Parce que l'avion ne s'est pas mis au bon terminal, et qu'apparemment cette compagnie sont des habitués de se mettre là où ils veulent, le chef de l'aéroport décide que les passagers qui avaient été orientés vers le terminal 8, alors que l'avion se trouvait au terminal 5, ne bougeons pas du 8, mais que l'avion n'a qu'à se déplacer et venir au terminal 8. Alors on nous déplace dans un temps, on dit non, vous repartez là-bas. Vous abusez, à chaque fois c'est comme ça, vous restez là-bas. Donc évidemment que pendant tout ce temps où le chef de l'aéroport qui s'est exprimé comme ça devant, entre guillemets, ses petits, ne pouvait plus faire marche arrière. Alors que c'était si simple, ça nous faisait que 100 mètres à peu près. 100 mètres pour nous déplacer pour aller monter dans l'avion. Il a tenu tête pour dire que les passagers ne se déplaceront pas déplacer l'avion. C'est des discussions qui nous ont fait perdre du temps. Alors vous imaginez déjà pour des personnes comme moi qui n'aiment pas prendre l'avion, ça fait augmenter encore le stress des questionnements. J'ai dit mais c'est pas possible. Finalement, on nous laisse au terminal 8. L'avion ne se déplace pas. On nous fait passer par le terminal, on nous fait descendre sur le tarmac et on nous fait marcher encore jusqu'à l'avion. J'ai dit, mais vraiment, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Mais cet homme-là, on s'était déjà déplacé au terminal 5. Il fallait simplement nous laisser monter dans l'avion. Et là, dans toutes ces choses-là, c'est retard sur retard, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? À Libreville encore, retour sur Brazzaville. L'avion encore une heure de retard. Là, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu reviens à la raison, tu te dis, mais non, Dieu contrôle toute chose. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Tu es un serviteur inutile. Tiens-toi tout simplement là où Dieu t'a dit de te tenir et tu attends simplement que les choses se passent. C'est de cette manière-là que nous devons vivre. C'est de cette manière-là que nous devons fonctionner. Le Seigneur peut nous utiliser, mais pas avec notre conception. C'est à nous de regarder au Seigneur, à la capacité de Dieu, et non pas notre capacité. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Nous clôturons avec un passage dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Au verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de ce pauvre homme. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Le danger de nous mépriser nous-mêmes, de regarder à nous-mêmes dans ce que nous sommes capables de faire ou pas, va nous emmener à regarder les autres de cette manière-là, à déconsidérer les autres, à avoir le sentiment que si ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, les choses ne se feront pas bien. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir du mal à donner des responsabilités à d'autres. Parce que lorsqu'on le voit, on le voit petit, on le voit sans intelligence, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Et on a le sentiment que Dieu ne peut pas l'utiliser. Voyons cette histoire. Il y avait une ville, la Bible dit, avec un pauvre, un homme qui était pauvre. Ceux qui sont pauvres, que ce soit à cette époque-là, comme à notre époque, sont déconsidérés. On ne les compte pas vraiment parmi la société, on ne compte pas sur leur voix. Ce qui intéresse, ce sont les gens puissants, qui sont capables de mettre l'argent sur la table, qui sont capables de taper du poing sur la table. Mais ceux qui sont pauvres sont méprisés. On les trouve inutiles. Ils sont là en quelque sorte pour accompagner les autres dans la vie, quoi. Ils sont là pour un peu le décor. C'est comme ça que vivent les puissants du monde. Ceux qui sont petits, les dictateurs les considèrent comme des cafards, comme des gens qui sont là tout simplement pour peupler. Vous pensez qu'ils seraient heureux avec tous leurs milliards s'ils étaient seuls sur une île entre eux? Ils ne seraient pas heureux. Ils ont besoin qu'il y ait des pauvres autour pour qu'ils se montrent. S'ils vivaient dans un monde là où tout le monde est comme eux, sur une île fermée entre eux, ils ne seraient pas heureux. Il faut qu'il y ait des petits, il faut qu'il y ait des cafards autour pour qu'ils montrent qu'ils sont grands. C'est comme ça qu'on méprise les pauvres. Et c'est comme ça que cet homme-là a été méprisé. Et la Bible nous dit que la ville a été sauvée, alors qu'un grand roi a marché sur cette ville-là, par cet homme-là qui était petit, qui était insignifiant. Mais c'est à lui que Dieu a donné la sagesse et la clé de la délivrance pour toute une ville. Ne nous méprisons pas, ne regardons pas à nous, mais regardons à ce que le Seigneur veut faire. Si nous voulons être de véritables disciples, de véritables missionnaires pour le Seigneur, de regarder que Dieu peut nous utiliser tel que nous sommes, comme cet homme a été utilisé. Ne méprisons pas aussi les autres. Ne regardons pas les enfants comme insignifiants. L'enfant qui est enfant aujourd'hui, un jour sera serviteur de Dieu. Celui qu'on a méprisé sur la croix, un jour a fini par être sauvé. L'apôtre Paul, qu'on regardait comme un truand, comme un brigand, comme un persécuteur des chrétiens, a fini par être un instrument pour la gloire de Dieu. Ne méprisons pas ceux qui sont autour de nous qui paraissent insignifiants, parce que Dieu, lui, ne nous méprise pas. Le Seigneur nous regarde tel que nous sommes, mais il regarde surtout à ce que lui, il est capable de faire. Nous ne sommes rien, c'est une réalité. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes quelque chose. Que le Seigneur nous aide à nous accrocher à lui, à demeurer en lui, à regarder à ses capacités à lui et non à regarder à nous, et surtout à entrer véritablement dans cette logique que notre vie est désormais consacrée au Seigneur. Nous vivons uniquement pour servir le Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Seigneur, sois béni, sois élevé, Seigneur de gloire, encore, Seigneur de gloire, en ce jour, ô Dieu. Nous réalisons, Seigneur Dieu de gloire, par ta parole, le privilège de te servir, Seigneur. Nous réalisons par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, que c'est vrai que nous ne sommes rien, mais que tu es capable de nous utiliser, Seigneur, afin qu'avec toi nous fassions des exploits. Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous humilier devant toi. Te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait parce que nous avons regardé à nous. Toutes les fois où nous avons refusé de te servir en justifiant que nous ne sommes pas capables, Seigneur. En justifiant que nous ne savons pas parler. En justifiant que nous sommes petits. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Parce que de cette manière, nous avons aussi fait preuve d'orgueil. Mais nous voulons être humbles. Oui, Seigneur, reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. C'est une réalité. Mais nous mettre à ton service, Seigneur. Accepter, Seigneur Dieu de gloire, ce qui peut être pour nous comme une honte devant les hommes, mais être à ton service. Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière en ce jour. Seigneur Dieu de gloire, à qui irions-nous comme Pierre l'a dit? Vers qui d'autre aller, Seigneur? Si nous t'avons choisi, Seigneur, c'est parce que nous avons cru en toi et nous avons cru en ce que tu étais. C'est pourquoi nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, afin d'être véritablement tes instruments. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons nous humilier devant toi. Implorer, Seigneur de gloire, ta grâce, Seigneur. Regarde au-dedans de nous, Seigneur Dieu de gloire, combien notre foi est affectée. Restaure notre foi, Seigneur, afin que nous mettions notre confiance en toi, véritablement. Que nos regards soient tournés vers toi, Seigneur, en esprit et en vérité, dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, tous les domaines de notre vie, Seigneur de gloire, pour lesquels nous sommes encore maîtres, nous sommes encore chefs. Seigneur, tu ne peux pas nous utiliser pleinement, Seigneur, si nous ne sommes pas à l'image, Seigneur de gloire, de Jean 3, 8, Seigneur de gloire, de celui qui est né de nouveau, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à tout abandonner entre tes mains. Montre-nous, Seigneur de gloire, les domaines de notre vie, Seigneur, où nous sommes encore notre propre chef, Seigneur. Et donne-nous la force de renoncer, Seigneur de gloire, à cela. Donne-nous la force d'y renoncer, Seigneur. Et augmente notre foi afin que nous puissions véritablement mettre notre confiance en toi. Car tu ne te trompes pas, Seigneur. Tu ne te trompes pas. Aide-nous, Seigneur de gloire, à accepter ce que tu permets dans nos vies. Dans le nom de Jésus, même Seigneur de gloire, dans ce qui peut paraître apparemment comme des échecs, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous, Seigneur Dieu de gloire, par ton Esprit Saint. Soutiens-nous, Seigneur Dieu de gloire, par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous avons besoin de toi.